bienvenue à tous dans le goût du monde. Vous savez quoi? Soyez réaliste, demandez l'impossible. Oui, cet impossible-là, qu'à force de conviction et de joie, de bienveillance, on finit par toucher du doigt et par atteindre. L'impossible pour certains, c'est un ailleurs, des bagages bouclés dans la précipitation, des pays et des mers traversés pour atteindre ce refuge, cette autre vie où tout sera à refaire, où la langue vous laisse muet, apparemment sans passé, sans plus rien. Quand les mots manquent pour parler de soi, il y a ces saveurs, ces parfums que l'on a apportés avec soi, et ce passe de traduction, ce plat partagé pour dire qui l'on est, et le regard change. Cuisinons ensemble pour restaurer le monde. C'est un projet qu'on pourrait croire impossible, mais qui, à petits pas, s'atteint. C'est aussi le slogan du Réchaud, l'association que vous avez lancée. Vanessa Krissev, bonjour.
Bonjour Clémence.
Réchaud pour refuge, chaleur, optimisme, je n'en dis pas plus. Vous êtes comédienne à l'origine et cuisinière. On parle de comédienne ou plus du tout?
Oui, bien sûr, je suis complètement comédienne et intermittente du spectacle.
Et cuisinière, une boxeuse, une fonceuse, avec en vous, dit-on, ce feu qui sait soulever les montagnes. Et vous n'êtes pas venue seule, mais avec une femme cuisinière, elle aussi fervente, soutien indéfectible du Réchaud. Bonjour Alessandra.
Bonjour Clémence.
Alessandra Montagne, quel plaisir de vous retrouver.
Merci.
Vanessa, d'où vient Krissev comme nom de famille?
Eh bien, de Krzyszewski à l'origine. Et c'est un nom russe qui a été polonisé, puis francisé en 45, quand mes grands-parents juifs sont arrivés en France.
Et ont trouvé refuge ici?
Et ont trouvé refuge en France, tout à fait.
Donc c'est une longue histoire de famille.
Ouf.
Ils sont arrivés petits ou ils étaient mariés quand ils sont
non,
arrivés?
Non, ils sont arrivés mariés avec mon père tout petit qui est né en exil au pied du mont Oural alors qu'ils étaient dans un kolkhoz. Mon père est né éclairé à la chandelle avec une sage-femme qui disait dépêchez-vous, on n'a plus de bougies. Et ensuite ils sont arrivés en France et puis mon grand-oncle qui était médecin, qui faisait l'ouverture des camps, a vu leur nom sur une liste avec un petit Georges qui était né et les a ramenés en France dans
D'accord,
dans
donc il a vu que c'était la famille et tout de suite il a découvert.
Mais il a vu que c'était son frère et la femme de son frère.
Incroyable.
Donc, cette histoire est dingue. J'ai percuté cette histoire dans un second temps.
C'est comme si c'était inconscient chez vous, du coup, Vanessa Krissev, quand vous vous êtes dit le tout début de votre réalisation et votre révolte justement contre la situation que vivaient les réfugiés tout début. C'est né de ça, de votre histoire?
Je pense que c'est une période de grande fragilité émotionnelle aussi parce que c'était après les attentats qui nous ont quand même tous complètement ébranlés. C'était les premières images vraiment choc du petit Elan sur la plage. Et puis c'était cette histoire de ma sœur qui elle vit en Allemagne et qui a croisé la route d'un couple de réfugiés syriens qui parlait un français parfait, qui venait d'être accueilli, donc vraiment au moment où on disait « l'Allemagne accueille 1 million de réfugiés, exemplaires, etc. Et, » et lui était médecin, elle ingénieure avec 2 enfants, et ils faisaient la manche parce que accueillis dans leur centre, en fait, on leur avait servi de la soupe au porc. Et donc ils avaient faim, ils n'avaient pas pu manger puisqu'ils étaient musulmans. Et en fait, la goutte d'eau qui fait vraiment naître la révolte, elle est là. Comment est-ce qu'on peut à la fois dire « on accueille » et avoir à ce point oublié que l'accueil passe par ce repas offert et que même dans les pays les plus pauvres, on ouvre la porte à l'étranger en l'invitant avant tout autour d'un repas réconfortant.
Oui, on trouve le moyen de le nourrir.
Ouais,
et même puis le respect de la nourriture, ouais. Le respect, c'est pas parce qu'on ne peut pas nourrir quelqu'un qui ne mange pas du porc avec du porc. Enfin, là, mais on ne le respecte pas, quoi. Enfin, on l'impose, en fait, sa culture. Enfin, donc, ce que j'aime avec le Réchaud, c'est son respect, en fait, global. On va cuisiner, mais on ne va pas cuisiner du porc. On va cuisiner des légumes. Je me rappelle, quand j'ai travaillé au Réchaud, c'était son respect, en fait. Moi, j'ai trouvé ça sublime, cette façon de respecter l'autre, en fait, la culture de l'autre.
Vous disiez, ce couple, finalement, on lui propose une soupe de porc, alors qu'il ne mange pas de porc. Comment est-ce qu'on peut accueillir des gens comme ça? Et puis, ils sont repartis, en finale, sans avoir mangé et pu manger cette soupe. Donc,
ils sont sortis à la rue pour faire la manche, pour pouvoir aller s'acheter un repas approprié. Et oui, et alors qu'on parle d'accueil, on parle de crise des réfugiés, etc. Nous, vraiment, ce qu'on estime, c'est que c'est pas une crise des réfugiés. De toute façon, on l'a vu en 2019, les chiffres, c'est finalement, les réfugiés en France, c'est 0,0005% de la population française. Donc on parle de raz-de-marée et de termes complètement fascistes, mais le problème, il n'est pas là, c'est une crise de l'accueil. Et si on organisait ensemble un accueil digne, on ne serait pas du tout confronté à une situation où finalement tous les Européens ont l'impression d'être confrontés, et les citoyens ont l'impression d'être confrontés à cette misère qui est extrêmement difficile à soutenir. Mais en fait, c'est un problème politique, c'est un problème d'accueil. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma lecture. Et plus on avance dans cette aventure du réchaud, plus on se rend compte aussi que la générosité, elle est partout. Les gens sont prêts à accueillir, ont envie d'accueillir, savent pas comment aider. Donc, il y a juste ce questionnement à remettre au centre de la société. C'est quoi le respect du vivant, la dignité, et c'est quoi accueillir ?
De l'homme, remettre l'homme au centre, ouais, des préoccupations et des attentions. Réchaud. C'est presque un acronyme, c'est pas vraiment un acronyme. Ça veut dire refuge.
C'est la contraction, ouais, de refuge, chaleur, optimisme. C'est-à-dire que si ce projet nous transforme, alors c'est peut-être la seule manière de transformer un peu le monde.
Cuisinons ensemble pour restaurer le monde, c'est aussi le slogan, on peut dire, du réchaud. Mais quand même, alors avec mes promesses, je suis bien jolie, moi, mais n'empêche que l'idée, c'était quand même d'agir à ce moment-là. Vous avez dit, c'est scandaleux, je suis révoltée, j'en peux plus, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je peux faire?
Oui.
Donc, vous avez fait quoi?
Eh ben, donc, on s'est rassemblés avec des personnes qu'on aimait. Au départ, une histoire d'amitié et de femmes formidables, d'amis autour de moi. Et chacune a trouvé une place, en fait, autour de ce projet qui était de partir, animer des ateliers de cuisine pour faire tomber les barrières. Donc, pas du tout une volonté d'insertion pour l'instant professionnelle, mais vraiment d'inclusion sociale. Et de dire, ben, il y a rien de plus fort que de mener un projet ensemble, d'avoir une mission ensemble. Ça fait tomber les murs, ça fait tomber les barrières. Si on propose une espèce de défi quotidien à des personnes qui sont en situation d'attente, en situation de grande précarité, avec des personnes qui sont dans une situation d'accueil et parfois de méfiance vis-à-vis des populations accueillies. Alors ensemble, si on fait des mini-défis comme ça du quotidien et qu'on partage ce temps autour de la table à se nourrir ensemble de notre création, il se passera sûrement des choses. Voilà. Donc l'idée, c'était d'accueillir, de cuisiner environ 500 repas jour sur le camp de Grande-Sainte. Puisque c'est
alors là, on va trop vite.
On rétropédale.
On rétropédale, parce que pour quelqu'un qui découvre tout juste le réchaud, l'existence du réchaud, c'est né donc en 2016. Vous vous êtes dit, allez hop, on va justement à la rencontre et des réfugiés et des gens qui ne connaissent pas, qui vivent autour, pour créer ce lien entre et les réfugiés et ses habitants. Vous avez fait comment? Vous avez pris un camion?
Et on a levé, grâce à 750 participants sur une plateforme de crowdfunding, on a levé 32 000 euros et cet argent a servi à acheter un food truck. À côté de ça, on a eu des dons alimentaires et de matériel. Donc, on s'est dit par où commencer et ce qui nous a semblé le plus évident, c'était ce camp à Grande-Sainte, donc qui est une ville juste à côté de Dunkerque dans le nord de la France, qui est le seul qui était, puisque à présent le camp a brûlé, mais qui était le seul camp aux normes du HCR, donc en France. Il n'y a pas d'autres camps, par dérive on parle de camps, mais ce sont des jungles, hein, à Calais ou autre. Là, c'était un camp organisé comme un camp humanitaire, enfin un lieu humanitaire, entre la mairie et Médecins Sans Frontières. Et donc sur ce camp étaient accueillies environ 1000 personnes qui sont en transit puisqu'elles souhaitent partir en Angleterre et poursuivre leur route. Et donc c'est un point d'étape en fait. Et c'est un lieu qui a été pensé pour leur ramener un peu de dignité avec le minimum, si c'est très rudimentaire, mais d'hygiène, d'eau courante, d'évacuation des poubelles, de cabanons qu'on appelle des shelters qui hébergent 4 personnes. Voilà, et qui était structuré, ben, comme on voit des camps dans d'autres pays, quoi, des camps de réfugiés. Et ce camp était vraiment très en lumière à cette période, puisque déjà c'était une volonté du maire contre l'avis du gouvernement de l'époque. Et ne connaissant rien, déjà on va s'engager un peu comme bénévole et voir comment ça se passe avec les associations qui œuvrent sur place. Et voir si notre idée est une bonne idée ou si ça ne pourrait pas fonctionner. Et on s'est rendu compte que l'infrastructure sur place le rendait possible, ce projet, et surtout que les autres associations on avait envie d'y participer et que ça pouvait aider, puisque nous on visait le mois d'août et qu'au mois d'août, ben les bénévoles partent en vacances, sont pas forcément là, et donc cette aide alimentaire était quasiment intégralement gérée par les bénévoles. Et donc quand on s'est rendu compte que c'était possible, ben, de toute façon on continuait à avancer parce qu'on avait très peu de temps. Mais on a annoncé que officiellement ça se passerait là. Tout ça en rencontrant la mairie.
Tout en même temps.
Poker.
Puis un jour, donc vous êtes au camp. Comment ça se passe? C'est votre premier contact, justement, parce que c'est immense d'avoir deux mondes qui se croisent.
Ça prend un peu de temps, déjà, de trouver sa place. De trouver sa place parce qu'on est des jeunes femmes dans un univers d'hommes, qu'il y a un choc des cultures. Donc, il y avait une place à trouver. Et en fait, ça se faisait en deux temps. Ça se faisait dans un premier temps. Donc, il faut vraiment imaginer un lieu où les gens sont en attente. C'est comme une immense salle d'attente. Les familles, les gens essayent de passer la nuit de l'autre côté avec l'aide de passeurs, en traversant, en prenant des camions. Ils reviennent au petit matin 9 fois sur 10, si ce n'est plus. Et ils dorment pendant la moitié de la journée. Et quand ils se réveillent à 14-15 heures, ils attendent le soir pour essayer à nouveau. C'est inhumain dans le processus, ça peut durer des années. Donc le matin, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on se réunissait avec les bénévoles. La ville nous avait mis à disposition une cuisine semi-professionnelle qu'on avait investie. Et donc, on cuisinait pour eux, pour venir donc leur servir au déjeuner, un repas adapté, et les inviter quelque part à notre table, et ensuite ouvrir ces ateliers. Donc à partir du début d'après-midi, là, on ouvrait les caisses, on déployait les tables, et on cuisinait ensemble, nous, en coordonnant la production. Mais c'était toujours un mix entre leur culture, nos propositions, évidemment, les dons alimentaires ou ce qu'on avait pu acheter, et nos fiches techniques, en gros, nos fiches de production à nous cuisiniers. C'était, voilà, les quantités de produits à écouler, mais c'est flexibilité maximale, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver d'eux, quoi.
Et rapidement, comment est-ce que la magie s'est opérée? Enfin, Alessandra Montagne, vous qui êtes cuisinière également, on va parler évidemment de votre participation active et fervente au réchaud. Comment on imagine ça, justement, quand on est cuisinier? Parce que ça veut dire qu'on va nourrir quelqu'un, donc il y a cette, tout de suite une confiance qui doit s'instaurer, accepter d'être nourri.
Ben, en fait, ma participation au réchaud, quand on a fait ça, je suis partie du principe que moi, j'étais là pour encadrer, c'est eux qui, en fait, allaient m'apprendre des choses. Donc, j'étais hyper réceptive à leur histoire, à la personne, à ce qu'ils savaient faire, les épices qu'ils utilisaient. Et au final, c'était un super bel échange, en fait. Enfin, j'étais avec un gars, je parlais pas du tout sa langue, il parlait très peu français. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait juste montrer, sentir, assembler une chose avec l'autre, faire des gestes. Et en fait, la cuisine est devenue notre idiome. Notre langage était la cuisine. Il n'y avait pas besoin de parler et puis c'était très, très beau, quoi, d'avoir un nouveau langage, en fait, qui a, où finalement, je me suis rendu compte que j'ai fait ça, et puis j'avais la personne à côté de moi, une autre copine qui était là, bénévole, qui faisait la même chose, et puis une autre, puis ensuite, il y avait des patates, il y avait des épices, il y a du riz, et puis tout le monde qui faisait des gestes de partout, qui montrait, qui disait trois mots, et puis la phrase entière était faite, c'était super beau, quoi, c'était un super bel échange.
Ouais, comme si c'était, en fait, la cuisine, et le fait de cuisiner ensemble, de toute façon, instaure cette confiance, ou en tout cas, instaure ce premier langage.
Ben, c'est un langage universel, oui.
C'est vrai que c'est un acte d'abandon absolu, en fait, de se laisser nourrir par un inconnu. C'est une confiance et qui est totale et qui, parfois, pour certaines personnes, prend un peu de temps, surtout quand on ne reconnaît pas les aliments. Nous, pour le repas du déjeuner, on transformait, c'était sous forme de repas complet dans une boîte. Et puis on a travaillé les céréales, les légumineuses, ce qu'on appelle un dip, donc enfin un truc un peu crémeux, des légumes crus, des légumes cuits, avec un repas vraiment équilibré, mais un repas un peu travaillé. Et quand on reconnaît pas immédiatement, ça peut prendre la tournure de la méfiance.
Oui, c'est vrai qu'imaginons nous dans un pays où on regarde un plat et on sait pas du tout ce que c'est.
On n'a jamais goûté.
Les Français sont hyper curieux, je trouve. Quand on a vachement envie de goûter, alors que là, t'es confronté à des personnes qui ne goûtent pas.
Qui ont faim. Est-ce qu'on est déjà, oui, j'imagine qu'on est déjà dans l'idée, non pas de survie, mais de vie. Donc on a faim, donc on mange. Donc déjà,
Alors nous, on se situe vraiment pas sur l'aide alimentaire. On s'adresse pas à un public qui a faim, c'est des personnes qui avaient un réchaud devant leur shelter, qui pouvaient manger au... Il y avait une espèce de cuisine centrale comme ça, ou qui pouvaient aller à Auchan à côté pour acheter les ingrédients qu'ils voulaient et cuisiner. On s'est jamais adressé à des publics qui avaient faim. C'est vraiment l'étape d'après, c'est la cuisine comme un lien.
C'est l'autre nourriture.
Ouais.
Celle qui va réchauffer le cœur.
C'est ça.
Alors, il y a un chef cuisinier, évidemment, qui vous suit depuis le début. C'est un chef du Nord, c'est Florent Laden. Il est chef du restaurant Vermont, à côté de Calais, en tout cas pas très loin, en tout cas à côté du camp. Et il était sur la route quand nous l'avons appelé hier au téléphone. Et il faut tendre un petit peu l'oreille, puisqu'il était sur la route en train de conduire, il est actif. Et alors le réchaud, pour lui, son souvenir, c'est un peu une de ses premières grandes claques.
Je me souviens, ça a mis un bon claco parce que j'avais eu besoin que 2-3 filles de Bruxelles et de Paris viennent me voir pour m'ouvrir les yeux sur ce qui se passait à 20 km de chez moi. Ce qui est encore mieux dans le réchaud, c'est que c'est juste de la solidarité, de la belle solidarité, de l'humain, sans couleur politique. J'ai appris énormément, j'ai appris ou réappris que finalement c'est par l'entraide et l'amour qu'on pourra vraiment changer et faire évoluer les mentalités. Pas que de l'entraide et pas que de l'amour, parce que ce sont des beaux mots, de belles émotions, mais c'est surtout en allant voir de ses yeux, en ayant une approche concrète et en ayant une action concrète, qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. J'ai appris des recettes avec eux, j'avais appris les nanes que je connaissais pas, j'avais appris qu'il était possible, enfin ça je le savais un petit peu, mais qu'il était possible de cuisiner dans n'importe quelle condition, tant qu'on voulait bien faire, et puis de toute façon la cuisine c'est du partage, et c'est du réconfort et aussi un peu d'amour, et toutes les conditions étaient réunies là-bas au camp pour que ça se passe bien.
Quand vous êtes arrivé dans ce camp de Grand-Synthe, à côté de Calais,
oui.
Quelle est votre impression et votre souvenir de cet instant-là ?
Quand je suis arrivé là-bas, j'ai été choqué parce que oui, j'avais vu passer quelques images. Et je me suis demandé comment, en tout cas dans notre monde contemporain, on pouvait encore laisser faire ça, parce que les conditions de vie là-bas sont très précaires. Néanmoins, j'ai vu beaucoup de sourires, j'ai vu des enfants, j'ai été accueilli là-bas, parce que je dis bien accueilli, parce que c'est chez eux. Même si c'est pour une durée la plus courte possible, j'espère pour eux, j'ai été accueilli avec beaucoup de sourires et énormément de sympathie. Je pense à Rébar que j'avais rencontré là-bas, qui est un super boulanger, qui m'a appris à faire les nanes, qui sait faire du pain dans n'importe quelle condition, qui est un monstre d'efficacité et de travail. On avait fait un événement avec lui, c'était à Lille, et Rébar avait fait les nanes pour, je crois que c'était 1300 personnes, avec une partie de mon équipe. Mais c'est lui qui nous avait appris, alors qu'on parlait pas vraiment ensemble, il avait quelques notions en anglais, mais les gestes sont une langue internationale et le travail a une valeur internationale aussi. Et ce mec m'avait vraiment scotché. C'était très touchant et moi, vraiment, ça m'avait affecté, en fait. Parce que je lui avais dit, j'ai écouté Rébar, si tu veux, moi, je m'arrange pour les papiers et je te ferai un boulot en tant que boulanger chez moi. Et il avait refusé cette offre, pas parce qu'il veut pas travailler, hein, mais juste parce qu'en fait, il avait fait la promesse à sa famille d'aller en Angleterre. Il avait fait cette promesse à son père et qu'il avait dit qu'il viendrait boulanger en Angleterre. Donc c'était, voilà, juste parce que c'est un homme de parole et qu'il allait au bout de sa démarche. Moi, aller sur le camp de la Lignière, ça m'a retourné, quoi. C'était fou. Rien que d'en parler, c'est encore, je suis encore à fleur de peau par rapport à ça, parce que c'était d'aller là-bas, ça m'avait vraiment remis à ma place, quoi, parce que je sais pas si c'est un syndrome franco-français, mais on a vraiment tendance à oublier ce qu'on a. Et on a de la chance en France, d'être né en France et de vivre dans un pays en paix. On a énormément de chance.
Florent Laden, donc, qui nous parle du geste, évidemment. Et on parlait en même temps, Vanessa Krisev, juste de cette difficulté d'arriver dans un endroit, d'arriver à absorber une situation et qui nécessite forcément une action directe, du coup, pour avancer, qui permet justement de sortir de l'émotion.
Oui, ça on le vérifie quand même souvent dans la vie, c'est que quand on est dans l'action, le cerveau est pris par une mission, donc on est moins poreux à l'émotion. Ça n'empêche que parfois on est rattrapé, hein, et puis on se fait cuire progressivement avec le temps. C'est des histoires complètement folles. En fait, et c'est aussi ce qu'on voulait à travers le réchaud. Enfin, c'est ce symbole et la cuisine, c'est se raconter des histoires, c'est délier les langues, c'est parler cette langue universelle pour faire jaillir vraiment ce partage de vie, de mémoire. Donc, c'est ce qu'on cherche. Parfois, on a besoin un peu de se protéger. Le réchaud, enfin, ce qu'on essaie de faire depuis le début, c'est être un vecteur. Donc, c'est pas forcément être soi-même en première ligne, mais c'est de permettre cette transmission entre le témoin et le témoignage et que cet échange ait lieu à travers nous. Ça veut pas dire qu'on doit collecter et prendre sur soi tout, parce qu'il y a des choses qui sont très violente et qu'on n'a pas envie de savoir.
Justement, il y a une place essentielle dans cette rencontre, c'est la table. Qu'est-ce que la table apporte de plus?
Mais je pense que le fait d'être assis et d'être posé et forcément de pas penser à autre chose, d'avoir des gens en face de soi, en repas, je pense que c'est un moment particulièrement facile pour parler de soi, parler des choses de la vie. Partager un repas, c'est un moment super intime en fait. Un date, ça se fait toujours, ça commence par un repas.
Mais en fait, quand on y pense, tout commence ou finit autour d'un repas. Table. Et c'est presque quelque chose qui est dans les gènes de Sapiens, quoi. Mais t'as l'impression que ce soit un moment triste, heureux, un moment de conflit politique. Enfin, et la table, elle est là pour cimenter un peu la société.
Bien sûr, la société et puis les situations. En fait, quand on est à table en face d'une personne, qu'on soit deux, trois, quatre, enfin, on partage toujours des trucs de dingue, quoi. Les plus beaux sourires, les quand on rigole, qu'on peut plus, qu'on a mal au ventre, quand on pleure, ou quand on rencontre une personne qu'on va aimer et qu'on va partager sa vie avec, ça commence toujours à table.
Comment ça se passait à Grand Saint, justement? Est-ce qu'il y avait des tables où on mangeait tous ensemble? Est-ce que vous avez amené, justement, après la cuisine, à tous s'asseoir ensemble pour manger ce que vous cuisiniez?
On est très attachés à cette horizontalité, en fait, qu'il y a dans un atelier ou dans une construction collective. Dans le réchaud, il n'y a pas trop « je te nourris ». On essaye au maximum d'éviter ce geste qui, par certaines personnes, sont très mal vécues d'ailleurs, hein, de tendre la main pour être nourrie. Enfin, c'est des personnes qui quittent des situations. Enfin, comme je disais, médecin, avocat. Enfin, c'est dur, quoi, de tendre la main. Donc, de faire ensemble, c'est complètement différent. Et de manger ensemble, c'était hyper important. Et donc, c'est la première fois que ça se faisait sur le camp. Les associations, bien sûr, présentes sur place, étaient dans un rapport immédiat de « il faut nourrir » et donc, voilà, avec des distributions alimentaires. Et là, on invitait toutes les associations, bien sûr, à participer à ces ateliers de cuisine et à s'asseoir ensuite et manger ensemble. Et ça changeait vraiment la relation. Et donc, on a des photos et des images de grandes tables mises en L au milieu de ce camp le soir. En plus, on a eu un super bel été. Donc, on était bien. On oubliait le décorum et on était autour d'une grande tablée avec cinquantaine de personnes et voilà, ça se faisait de manière très naturelle sur un coucher de soleil. Tout devenait presque beau, quoi. Enfin, il y avait quelque chose de... C'est étonnant sur le moment du partage du repas.
Qu'on soit dans un endroit magnifique, hyper luxueux, ou qu'on soit dans un camp, du moment où on partage, il y a de la vie, de l'émotion, de la beauté de l'échange, finalement, l'endroit, on s'en fout. Tu vois, c'est dingue.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
The Road Jack, c'est Ray Charles sur RFI. Vous nous rejoignez, bienvenue. Vous écoutez Le Goût du Monde, solaire, optimiste, résolument solidaire. On a pris la route et en chemin, on a trouvé refuge, chaleur et optimisme. On a trouvé le réchaud, ce projet fou imaginé et nourri depuis 2016 par Vanessa Krissev et d'autres, et soutenu cœur et âme par la chef Alessandra Montagne qui dansait présentement sur Hit the Road Jack. Hit the Road Jack, elle est associée au réchaud?
Ben, c'était un peu l'hymne 2016-2017. À chaque fois qu'on allait quelque part, par hasard, cette chanson passait et c'est devenu un peu... Et c'est vrai que quand on comprend, quand on écoute les paroles, ça dit pas tout à fait ça.
Non, c'est prend la route.
Mais il y a quand même le truc de... Va-t'en, ne te retourne pas, ne reviens pas. Il y a quand même cette notion d'exil quoi dans cette chanson.
En tout cas, Nicolas Benita, qui réalise cette émission aujourd'hui, m'a dit « on va danser en studio » et il avait raison. On a dansé ailleurs. On a dansé toujours dans le nord de la France, à Arras. Cette fois, alors Arras, je ne sais pas en quelle année sommes-nous. Tout ce que je sais, c'est que ça a été une sorte de dizaine de jours fou. Vous y étiez,
oui,
Alessandra Montagne.
Oui, j'y étais.
Vous l'avez organisé, Vanessa Crissel. Qu'est-ce qui s'est passé à Arras?
C'était fou. C'était en 2018, en octobre. Alors après Grande Sainte, après la première mission à Grande Sainte, puisqu'il y en a eu deux entre 2016 et 2017, puis il y a eu des missions en Belgique aussi. Mais il se trouve qu'en novembre 2016 à peu près, on a été invité à pitcher le projet à Arras par le réseau Bleu Blanc Zèbre, qui est un réseau citoyen qui facilite la mise en œuvre de projets associatifs entre mairies et donc citoyens engagés. Et c'était les 1 an à Arras du réseau et ils nous ont invités à venir parler de ce qui s'était passé à Grande Sainte. Et le maire, monsieur Frédéric Le Turc, qui vient d'être réélu, a dit très intéressant ce qu'a fait le réchaud, j'aimerais bien qu'il fasse quelque chose. Il n'imaginait pas encore tout à fait ce qu'on a imaginé, qui était non pas un atelier de cuisine avec un centre d'accueil, mais vraiment se dire, voilà, on a une ville française de 43 000 habitants qui est confrontée à la question de l'accueil aussi depuis un certain temps, qui le fait très discrètement, sans forcément communiquer dessus, qui a aussi, en parallèle de ça, une scène gastronomique importante, une scène événementielle, qui est une ville donc accueillante, avec deux populations très précaires, et en même temps, c'est un peu une ville, la ville de Napoléon, quoi. Il y a aussi une population très bourgeoise, voilà. Et en fait, se dire, mais tous ensemble, créons une espèce de restaurant éphémère solidaire, et montrons ce que la France peut avoir de meilleur, et faire rayonner la solidarité, enfin, voilà, ce message d'optimisme, en disant, on peut faire rayonner la solidarité française au lieu d'avoir toujours ce message anxiogène de et toujours ces voix qui s'élèvent plus fortes que d'autres qui sont pas les plus nombreuses, loin de là, mais de dire globalement nous on a été témoins pendant 2 ans de cette bienveillance de la part de personnes extraordinaires qu'on a rencontrées. On pense que c'est la majorité des Français qui sont comme ça, enfin des Européens. Faisons-le voir au plus grand nombre, donnons-le à voir et à ressentir. Et donc cette idée de construire à partir de rien tous ensemble avec une ville, un restaurant éphémère solidaire qui soit une forme d'épicentre du vivre ensemble. Donc avec évidemment la musique parce que c'est important, avec de la cuisine parce que c'est essentiel, avec ces ateliers de cuisine qui sont centraux dans tout le projet de personnes qui savent pas cuisiner mais encadrées par des chefs qui vont relever le défi et nourrir à prix libre. On est sur ce type d'événement assez attaché au prix libre, la population arrageoise. Donc c'est une mixité. Essayer de faire se rencontrer au maximum les externalités, les populations, les publics qui sont normalement parallèles, voilà.
Qui seraient pas amenés à se rencontrer autrement. Et du coup, c'était...
C'était génial.
Et toi encore, t'as fait les tout premiers jours.
Les premiers jours,
c'est ça, ça a duré juste.
Oui, c'était. En fait, j'avais l'impression d'être en famille, en fait, d'être à la maison. Déjà, enfin, moi, ça s'entend pas, je sais. Mais je suis pas née en France.
Non, on n'a pas du tout entendu votre accent brésilien, Alessandra Montagne.
Comment vous savez que c'est brésilien, alors?
Ça chante, ça danse.
Donc le fait d'être avec toutes ces personnes, et puis j'ai pas vécu dans la peau ce qu'elles ont vécu, elles. Parce que je suis arrivée dans des conditions différentes, mais quand on quitte son pays, sa famille, moi j'avais un enfant que j'ai dû laisser, je l'ai ramené très rapidement, mais je l'ai quand même laissé un petit moment. On quitte ses amis, je parlais pas français quand je suis arrivée.
Vous veniez d'un village petit, en plus.
D'un tout petit village, donc j'avais pas, en fait, les bases de quelqu'un qui habite dans une grande ville. Enfin, on a, en fait, un savoir-vivre quand on est dans une ville, on dort pas avec la porte ouverte, ce genre de choses. Moi, je faisais confiance pour moi, enfin, les gens n'allaient pas venir voler, ce genre de choses. Et donc, j'ai comprenais en fait les gens qui étaient là et puis je me mettais un peu à leur place quoi. On arrive dans un pays étranger, on connaît pas la bouffe, on connaît pas les choses, on sait pas parler, on n'a pas sa famille, ses amis, ses enfants. Et puis on se retrouve là, mon Dieu, c'est tellement triste quoi. C'est je me regardais ces gens, je me disais qu'est-ce que c'est leur histoire? Est-ce qu'ils ont tout laissé derrière eux? Est-ce qu'un jour ils vont retrouver les leurs?
Puis on n'a pas de passé aussi.
Et donc j'avais très envie de les embrasser, de parler avec eux, parce que j'ai senti leur douleur. Parce que je l'ai senti, en fait, pendant tellement longtemps. Donc voilà, c'était super beau, c'était super humain, c'était un... Je suis sortie de là-bas à la fin de la journée, j'avais l'impression d'avoir servi à quelque chose. Donc voilà, c'était sublime. Merci Vanessa.
Merci à toi.
La question que je me posais, c'est de là dont vous vient le... Mais de quand on s'excuse ? Il ne faut pas s'excuser. C'est de là que vous vient votre envie de nourrir les autres ?
Ah oui, c'est l'envie de donner à manger. En fait, j'ai cette envie qui est très très forte. En portugais, on appelle ça sustentar, le fait que les gens n'ont plus faim. En fait, donc c'est nourrir en français, mais le mot sustentar il est encore plus fort parce que il est plus presque dans l'âme en fait. La personne est heureuse de manger, elle se sent en confort, en état de réconfort. Donc c'est la nourriture plus le réconfort. Tu vois, sustentar. Et ça pour moi c'est juste vital. J'ai besoin en fait pour avancer. C'est mon moteur dans la vie. C'est transmettre un certain bonheur et ce réconfort. J'adore ça. Vraiment, j'aime beaucoup.
En tout cas, c'est incroyable parce que toutes les personnes qui sont autour de vous et autour de ce projet n'ont que à la bouche, c'est fou, ça m'a changé, c'est une claque, c'est dingue. Et Sonia Esgulian aussi, parce que Sonia Esgulian, qui est donc cuisinière à Lyon, était à Arras, elle aussi, et on l'a joint au téléphone bien sûr.
En fait, j'ai toujours cuisiné pour des petites quantités. Alors, quand je dis petites quantités, c'est autour de 30 ou 50 personnes, grand maximum. Et quand Vanessa m'a parlé du projet, elle m'a dit « Écoute, voilà, c'est un grand dîner avec plusieurs plats et pour 250 personnes. » Et là, je me suis dit « Mon Dieu, mais je ne saurais jamais diriger une brigade pour 250 couverts. » Et puis surtout, la brigade, c'était quelque chose d'assez fluctuant. C'était une brigade entre 40 et 70 personnes. Donc, ça m'avait totalement effrayée. Vanessa m'a dit « Écoute, franchement, oublie complètement le fait que ce soit une brigade. La plupart du temps, ce sont des bénévoles, des réfugiés. »
Une brigade particulière, au visage particulier aussi, parce que il y avait pas mal de gens dans cette brigade qui peut-être n'y connaissaient rien en cuisine et qui ne se connaissaient pas avant. Qu'est-ce qu'on retient de cette expérience-là, justement ?
Un moment formidable, parce qu'en fait, il y a eu deux choses. Je suis intervenue en dernier, donc tous les chefs étaient passés tout au long de la semaine, et moi, je faisais le dernier dîner pour faire un dîner anti-gaspi. Et donc ça, c'était formidable, parce que donc je suis arrivée dans l'immense entrepôt qui était une cuisine, et là, on m'a dit, bah écoute, fais ce que tu peux avec tout ce qui reste. Alors là, c'est terrible, parce qu'on fait fonctionner les neurones très très vite, et surtout, je me suis laissée complètement aller, parce que il y avait plein de gens qui ne savaient pas cuisiner, mais on s'est tous lâchés avec les premières idées directrices que j'avais données. Et là, ça a été formidable. Vanessa avait une idée aussi absolument géniale. C'est de faire venir un musicien qui a chanté et qui a joué de la guitare pendant toute la mise en place. Et ça, je garde quand même quelque chose d'extrêmement joyeux. Et à toutes les étapes, parce que je suis passée à toutes les étapes pour voir un petit peu ce que faisaient les gens. Moi, j'ai fait aussi des préparatifs avec une dizaine de personnes. Et beaucoup d'émotions et beaucoup de rencontres. Ça, c'est quelque chose d'assez unique que je garde vraiment en mémoire. J'ai été très, très émue. D'ailleurs, au moment du dîner, il était prévu que chaque chef dise quelques mots. Et en fait, en général, moi, j'adore raconter, exprimer un petit peu ce que j'ai ressenti. Et en fait, je n'ai pas pu m'exprimer. J'avais la gorge nouée. J'étais tellement dans l'émotion que je n'ai jamais pu sortir un mot. Les gens ont compris que j'étais très touchée et très heureuse d'avoir cuisiné avec eux.
Et vous avez remis ça ? En mars dernier, à Paris.
Encore une autre expérience, parce que là, pour le coup, beaucoup plus petite brigade, puisque nous étions quatre être en cuisine avec des professionnels, mais aussi des réfugiés qui souhaitaient en fait apprendre le métier, trouver un débouché dans le secteur de la cuisine. Et là, ça a été une aventure géniale parce qu'il fallait dresser en fait comme au restaurant pour un service à peu près de 80 couverts, élégant, avec des plats très travaillés, avec des gens qui avaient des niveaux de cuisine très différents. Et là, c'est un vrai échange parce que du coup, on ne fait pas sa cuisine, on fait vraiment un métissage de différentes cuisines techniques. C'est ça que je garderai en tête avec le réchaud. Leur joie, leur enthousiasme. Oh, incroyable, cette émotion, cet enthousiasme, cette joie, tout simplement, qui fait que, voilà, aucune inquiétude à avoir. Tout va fonctionner, puisqu'on est tous dans cette joie. Ça reste ça le mot important pour moi.
La joie. La joie que prodigue de cuisiner tous ensemble et d'être ensemble dans ce beau projet. Alors, avec Alessandra, je lui posais la question aussi tout à l'heure de quand elle est arrivée en France. Comment est-ce qu'elle a fait pour rencontrer les gens?
C'est vrai que j'ai toujours aimé beaucoup cuisiner, j'adorais quand il y avait un pique-nique que j'étais invitée, je me proposais toujours d'amener des salades, des desserts, des petites choses à manger, et puis les gens venaient souvent, ah mais c'est vachement bon, c'est toi qui l'as fait, ah mais c'est quoi, ah bah c'est des petits pains, vous savez on fait c'est comme ça, on fait comme ci, ah si vous avez besoin je peux vous aider, si vous allez recevoir des gens chez vous, ça ne dérange pas de venir vous aider, et puis de cette façon j'ai aussi avoir plein d'amis, de créer des liens. Et il y a des gens que je connais donc depuis 20 ans qui sont toujours autour de moi, qui sont des gens qui sont devenus très chers pour moi aujourd'hui. Mais c'est vrai que le premier lien avec les personnes, c'était par la cuisine, tout de suite.
Vanessa Krisev, c'est étonnant parce que quand on entend Alessandra, on se dit c'est précisément ça aussi, le réchaud.
Oui, c'est hyper émouvant et vibrant, mais c'est aussi... ça remet vachement à sa place en fait ce témoignage et la manière dont tu racontes, c'est qu'en fait je pense qu'on est tous enfants de l'exil et on est tous dans cette relation aux autres, dans cette recherche de lien aux autres et dans ce rapport aux histoires aussi, à l'histoire de l'autre, parce que enfin tout ça c'est une grande histoire de l'humanité et
oui,
en fait
sûr,
on se projette les uns dans les autres et on a besoin de cette sociabilisation quoi, et du coup oui c'est exactement ça le réchaud, c'est sûr, et mais tous les chefs qui s'engagent à nos côtés, tous ce collectif, c'était Olivier Wallinger qui voulait cette tribu, ce collectif de chefs engagés. Tout le monde s'engage pour des raisons qui leur sont personnelles et intimes, et tout le monde le fait dans un mouvement commun, mais avec une histoire qui lui est propre. Et quand on entend Sonia, ou quand Sonia aussi, elle a une histoire très particulière à la cuisine arménienne et à cette générosité du partage. Florent aussi, en fait, dans son rapport aux produits, aux producteurs, et son engagement dans le réchaud, et la manière dont il a accueilli chez lui aussi Rébar, donc ce boulanger dont il parle, et il a mis à la carte des nanes à la farine de Flandre et au levain naturel qu'il faisait avec lui, enfin à la carte de son gastro. D'un coup, en fait, cette espèce de fusion des cultures remet vraiment de l'unité, je trouve, dans la société.
Et le réchaud maintenant, c'est une table qui n'est plus sur.
Alors le réchaud, c'est plusieurs choses. C'est toujours assez foisonnant. Mais donc cet incompréhensible de. En revenant en tout cas du grand réchaud, donc qui s'est déroulé sur 10 jours avec cette teinte vraiment de festival, et avec cette volonté d'en faire d'autres.
Hein, avec sa tribu derrière.
Avec sa tribu derrière, on nous a proposé de prendre un lieu juste à côté d'ici. Notre grand partenaire, l'association Aurore, ouvrait un nouveau lieu d'accueil et voulait en faire un lieu ouvert sur l'extérieur. Donc au cœur du 16e arrondissement de Paris, un centre d'accueil qui héberge aujourd'hui 350 personnes, qui héberge aussi des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des compagnies de théâtre, enfin toujours profusion et cette mixité, et qui voulait donc un restaurant qui tisse du lien avec l'extérieur. Un peu parfait parce que c'était une manière de nous poser, de passer le pas de l'insertion professionnelle qu'on avait pour l'instant laissé un peu Alors, on avait tissé ce réseau de chefs amis qui accueillaient ou qui accompagnaient quand il y avait une demande, mais on l'avait pas fait. On n'avait pas pour vocation de le faire dans les premiers temps. Donc là, d'un coup, on avait la possibilité de faire de l'insertion professionnelle en accueillant dans notre brigade des personnes réfugiées et en leur apprenant les clés d'un métier en plus à fort impact environnemental positif. Et donc, on a accepté.
Je m'appelle Obedella.
Et vous venez de quel pays ?
Afghanistan.
D'accord.
Réchaud, je travaille en cuisine, de temps en temps en salle aussi. J'ai préféré cuisiner.
D'accord.
Ouais.
Et pourquoi ?
Moi, j'aime bien préparer des choses. Ouais. Et un peu timide dans la salle. C'est mieux cuisiner.
C'est mieux en cuisine.
Tranquille.
Vous avez travaillé en cuisine ici pendant longtemps ?
Ah non, 2 mois, je crois, ouais, c'est ça. Alors maintenant, elle est venir à notre chef niveau. Elle s'appelle Julia. Elle aussi est très gentille. Elle m'apprend plein de choses.
Vous êtes arrivé en France quand ? Il y a longtemps ?
Non, 2 ans.
Il y a 2 ans.
Ouais, 2018.
Vous parlez bien français, hein ?
Pas très bien, ça va.
Ben ouais, c'est bien. L'afghan en 2 ans, ouais. Je ne saurais pas faire.
J'ai appris 2 ans. Ah non, ouais. Avant, je ne parlais pas français. Parce que toujours avec les gens parlaient anglais, pashto, en langue. Après, j'ai dit, ben là, ça ne passe pas passer tout le temps comme ça, parler anglais, pashto. Il faut arrêter ça.
Vous pensiez être cuisinier quand vous êtes parti d'Afghanistan ?
Oui, moi, avant, j'aime beaucoup le cuisiner. Travailler dans un restaurant. Jamais je n'ai pas travaillé dans un restaurant. La première fois, j'ai travaillé ici.
Et du coup, alors ? Vanessa me disait qu'il y avait une bonne nouvelle. Vous avez travaillé où ça alors ?
Je travaille dans un grand boulevard, 2e arrondissement. Il y a un restaurant pizza. Ouais, ça va, la première fois, je travaille à l'extérieur. Ça se passe très bien pour l'instant, on va voir après.
Et du coup, vous faites à manger aussi dans votre
appartement ? Ouais, on mangeait dans le pays, toujours en cuisiner chez nous.
Alors, qu'est-ce qu'on mange ?
Moi, j'aime beaucoup le riz. Ça s'appelle Kabuli Pala.
Ah bah ça, c'est
aussi,
bon ça.
Je préfère un autre plat. Ça s'appelle korma, juste la viande.
Est-ce que vous avez déjà cuisiné afghan, ici ?
J'ai préparé une fois, je crois, dans un... Il y a un atelier cuisiné.
Oui.
J'ai préparé du riz.
Ça vous a fait plaisir de préparer ce riz avec d'autres gens et d'apprendre aux gens à le faire ?
Ouais, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des gens aussi gentils. Ça va aller, j'espère.
Ça va aller, ouais. Ça va aller.
Ça, c'est le restaurant. Et le restaurant, c'est aussi un projet donc, de mixité sur le quartier avec des ateliers collaboratifs qui continuent. Un samedi par mois, en parallèle de ça, on est en train de reposer les jalons d'un prochain grand réchaud. Parce que l'idée, c'est d'avoir du nomadisme et du sédentaire à côté. Voilà.
Et ce grand réchaud, alors ? C'est jaloux.
On est vraiment
au tout début.
Balbutiement, mais on attendait les élections parce que c'est un projet très lourd qui ne peut se faire et qui n'a de sens que s'il se construit avec les mairies, avec les collectivités. En termes même de coordination, il y a tellement d'acteurs engagés quand on veut embarquer une ville qu'on est tout petit, nous, pour le faire et on a besoin d'aide. On a identifié quelques villes potentiellement partenaires et on va aller le proposer incessamment sous peu à la première ville de notre
de votre liste. Ben, vous nous tiendrez au courant parce que nous, on aimerait bien être bénévoles parce qu'avec le grand réchaud, c'est ça aussi. Enfin, le réchaud, le grand réchaud, la table, on peut aller manger, on peut s'engager, adhérer. Vous avez justement toute cette tribu qui s'est agrandie.
Oui, et qui s'agrandit alors vraiment aussi en fonction de nos actions. Quand on a un grand réchaud, c'était 100 bénévoles par jour. On a vraiment besoin de beaucoup de mains. Quand on a des ateliers de cuisine, on a besoin de quelques coordinateurs aussi, quelques aides extérieures. On a toujours des besoins et qui sont vraiment d'une année à l'autre, enfin assez variables. En tout cas, aujourd'hui, on a une grosse communauté qui nous suit sur les réseaux, mais on a des gens qui sont sensibles et ça nous encourage à poursuivre.
Donc il faudra donner une adresse. Enfin, c'est facile, leréchaud.org.
Il y a tout.
Et on regarde où vous êtes.
La table du réchaud est au 51 boulevard Exelmans. Et nous sommes ouverts pour l'instant en horaire d'été encore, tant que les beaux jours le permettent, du mercredi au dimanche.
Mercredi au dimanche. Et donc, il y a de temps en temps aussi des tables ouvertes où vous invitez des chefs. Alessandra en a fait une, oui. Table ouverte, avec une autre expérience évidemment par rapport à Arras. J'ai l'impression que ça vous a tous laissé un peu une impression folle.
Ah non, Arras, c'était très fort.
Alors que la table, c'est dans un autre...
C'était un autre... Voilà, c'était en fait... On a cuisiné avec les réfugiés et Vanessa, donc on était toutes les deux en cuisine. Et là, c'était des gens qui ont réservé et qui sont venus manger. Donc, c'était différent. Et Arras, non. Arras, c'était complètement autre chose, quoi. Il y en avait beaucoup de réfugiés. Et c'est eux qui cuisinaient et nous, on les accompagnait dans la démarche. En fait, j'étais... plus commis que chef de cuisine. Et puis, leur proximité, tout de suite, m'a replongé dans moi, il y a 20 ans, quoi. Mmh. Voilà, il y a 20 ans, je parlais pas français, j'avais pas ma famille, je connaissais personne. Et le seul moyen de communication que j'avais, c'était la cuisine. Et puis, ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que, voilà, ça me, le fait de vraiment tout le temps me rappeler d'où je viens, ça m'aide à garder les pieds sur terre. Mmh. C'est hyper important.
À sa place.
À ma place, alors... totalement.
Le
et
réchaud,
de savoir, oui. Surtout, que tout peut arrêter et tout peut changer du jour au lendemain.
Ouais.
Comme pour eux, hein. Ils avaient une vie qui était du jour au lendemain, voilà, ils sont obligés de partir, la guerre. Donc, faut jamais oublier que tout peut arrêter du jour au lendemain.
Le réchaud a un symbole que vous avez tatoué sur votre corps, je crois, Vanessa.
Ah!
Oui, j'ai même.
C'est une roue. Alors, c'est une roue. On peut l'interpréter, moi qui ne, je me dis, c'est peut-être un réchaud vu de haut. Mais je me dis aussi que c'est peut-être une roue ou un cercle.
Tout à fait.
Un cercle vertueux, dans lequel on s'engage, avec lequel on avance. Et il en a fait du chemin, votre cercle vertueux.
Bon, j'espère qu'il en est encore au début. Mais oui,
c'est ça. Demain, donc demain, un nouveau grand réchaud. Mais pour vous, demain.
Un nouveau grand projet.
Un nouveau grand projet. Et quoi encore?
Poursuivre ce qu'on fait, donc, avec cet équilibre entre des lieux comme la table du réchaud qui sont au cœur de notre public bénéficiaire et qu'on accompagne vers une professionnalisation et qui nous permettent de toucher des publics ciblés locaux sur la durée. Des grands réchauds, parce que l'esprit festival ramène encore plein d'autres personnes et c'est aussi, ça laisse des traces vraiment long terme sur les collectivités. Donc déjà, si on arrive à faire ça, et ensuite on a un projet un peu dingue, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais on est quand même extrêmement tourné vers l'écologie. Et voilà, ce qu'on dit au restaurant, c'est qu'il n'y a pas de social sans écologie, que c'est restaurer le monde en restaurant les hommes. Donc, il y a une idée un peu folle avec toutes ces personnes qu'on aime autour de nous, de ouvrir, d'avoir un lieu comme un kibbutz, quoi, quelque part où on vive ensemble, avec de l'espace bien sûr, mais de la graine à l'assiette, de la culture, des cultures, enfin de la culture de la graine, mais de la culture aussi, je veux dire, qui est indispensable pour faire avancer la société, à l'assiette aussi, enfin qui nous ramène aussi à ces temps partagés, qu'on puisse avoir un grand lieu vaste à nous, avec des gens formidables qui apportent leur graine à l'édifice.
Un nouveau monde.
Hein? Ah bah, en fait, j'osais pas dire.
Voilà. Merci beaucoup Vanessa Crissel, merci infiniment. Merci Alessandra Montagne.
Merci à toi.
Longue vie à Nosso, votre nouveau restaurant qui va ouvrir ses portes et qui évidemment vous viendrez nous présenter et dont
oui,
vous viendrez nous parler.
Avec plaisir, avec plaisir.
Dès que tout sera un
dès
peu
qu'on ouvre déjà.
Lancé. L'invitation est lancée en tout cas. Je voulais juste dire, dites-nous, vous qui nous écoutez, s'il y a autour de vous des gens qui s'investissent également auprès des réfugiés, que pensez-vous de la cuisine comme lien pour faire connaissance et reconnaître l'autre? Je sais qu'il y a notamment en Centrafrique des initiatives dans ce sens relayées par les clubs RFI. Merci beaucoup à Nicolas Benita pour ce goût du monde. À vous tous qui nous écoutez, rendez-vous la semaine prochaine, même table, même heure.